émission se disait au revoir sur Michael Jackson, Human Nature, ce soir dans votre libre antenne sur Europe 1. On se retrouve évidemment demain dès 22h30 jusqu'à 1h du matin en direct. Et puis notez que tous les samedis de 13h à 14h sur CNews et Europe 1, vous pouvez retrouver Face à Michel Onfray, interrogé par Laurence Ferrari. Michel Onfray, le philosophe, essayiste, polémiste, qui passe en revue l'actualité de la semaine. Face à Michel Onfray, ça a écouté chaque samedi de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1, la radio libre. Passez un bon samedi, prenez soin de vous, des autres et du monde, et tout de suite retrouvez Marlène Duret.
Merci Valérie, rentrez bien, dormez bien, je vous embrasse. Vous écoutez Europe 1, il est 1h. Nous allons débuter notre balade nocturne avec une immersion dans le parcours de l'une des plus grandes stars de la chanson française, bon, qui était surtout une femme abîmée par la vie qui ne lui aura rien épargné, Dalida. Et c'est Pascal Praud qui vous raconte son histoire.
Destins extraordinaires, Dalida.
On vous écrira. Cette phrase, Yolanda Gigliotti l'a régulièrement entendue lorsqu'elle a débarqué en France de son Égypte natale à l'âge de 21 ans. Rodant dans les studios de Boulogne, à la recherche de petits rôles au cinéma, celle qui vient d'être élue Miss Égypte ronge son frein en attendant un déclic. Mais pourquoi donc personne ne la remarque ici ? Ce déclic viendra lorsqu'un certain Lucien Maurice, directeur artistique de cette toute nouvelle radio, Europe numéro 1, posera les yeux sur elle. Pour lui, c'est une évidence. Cette jeune inconnue qui chante aussi dans un cabaret des Champs-Élysées sous le nom de Dalida est une star en devenir. Lucien Maurice est comme fasciné par cette jeune femme aux longs cheveux, aux pommettes hautes, à la voix langoureuse et à l'accent latino-oriental. Non seulement il en fera une star, mais Dalida en retour fera beaucoup pour le succès et la notoriété d'Europe numéro 1. Ils se marieront, 5 ans plus tard. De Bambino à Mourir sur scène, la star a enchaîné les triomphes. Plus de 100 millions de disques vendus et dans tous les genres, du mélodrame au disco ou à la chanson orientale. Mais, comme d'autres étoiles de la chanson ou du cinéma, Dalida était un être fragile, à la fois émouvante et lumineuse, généreuse et malheureuse, fragile mais immortelle. Dans ce podcast Europe 1, vous entendrez de nombreuses archives, certaines sont rares. Vous entendrez également quelques extraits du film Dalida, réalisé par Lisa Azuelos en 2016.
Épisode 1, Pardonnez-moi.
Pour raconter la vie de Yolanda Cristina Gigliotti, dite Dalida, il faut peut-être commencer par la fin. Cette fin qui n'en est pas vraiment une, d'ailleurs, puisqu'en ce tragique mois de mai 1987, Dalida est devenue immortelle. Dalida fête ses 50 ans le 17 janvier 1983, près de 30 ans après ses débuts, la star n'a jamais été aussi active. Elle passe sa vie en studio et sur scène, l'endroit où, chante-t-elle cette année-là, elle aimerait mourir. En apparence, la quinquagénaire Dalida rayonne, mais selon son frère Orlando, ce cap n'a pas été évident pour la chanteuse.
Pour Dalida, ça a été la cinquantaine un drame. Aujourd'hui, une femme à 50 ans, c'est une gamine encore. Vers la cinquantaine, elle a commencé à vouloir s'occuper de sa vie de femme.
Dalida veut faire de sa vie de femme une priorité. Mais celle-ci a souvent été teintée de drames. En 1983, Richard Chanfray se donne la mort, tout comme Luigi Tenco et Lucien Maurice avant lui. Dalida porte-t-elle malheur aux hommes qu'elle aime pour que les 3 hommes de sa vie aient tous décidé de mettre fin à leur jour ? Son dernier album, Les Petits Mots, est rongé par la mélancolie. Outre Mourir sur scène, Dalida chante Téléphonez-moi, chanson confession, dans laquelle elle se livre sans filtre, les paroles parlent d'elles-mêmes. Vous me voyez comme une star, mais je ne suis qu'une femme. Vous savez, quelquefois, la gloire a fait des bleus à mon âme. J'ai envie d'écouter d'autres mots que ceux qu'on écrit dans les journaux. Téléphonez-moi, téléphonez-moi, je n'attends que ça, j'ai besoin d'une voix.
Adieu la vie.
J'ai réussi dans la vie, mais ma vie, je l'ai complètement ratée. Aujourd'hui, je me retrouve toute seule, sans mari, sans enfant. Confie-t-elle avant d'ajouter, le succès isole, complètement. J'en souffre, mais on s'habitue à tout. La musique occupe toujours une place centrale dans la vie de Dalida, mais au milieu des années 80, elle décide de revenir vers la comédie. En janvier 1986, elle annule des galas au dernier moment et se dépêche de boucler l'enregistrement de son dernier album, Le Visage de l'amour. Pourquoi cette précipitation? Parce que Youssef Chahine lui demande de venir illico au Caire pour commencer le tournage de son dernier film, Le Sixième Jour. Pour l'anecdote, c'est en direct sur Europe 1 dans l'émission Découverte de Jean-Pierre Elkabbach que cette collaboration entre la chanteuse et le grand réalisateur égyptien a été scellée.
Quand il y a un rôle, la personne que vous choisissez doit avoir tout ce que ce rôle exige. Beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité, l'amour, tout ça doit éclater à la fin. Dalida est une personne qui est comme ça. Pour moi, c'est la fille de la maman. Quand je la vois travailler avec son frère, se dispute, il se déchire. Elle a un métier absolument extraordinaire. Elle est intelligente. Pour moi, l'intelligence est excessivement importante.
Merci, merci.
Il y a cette chaleur. Ce pont qui est entre nous depuis très longtemps, je suis en train tout le temps de parler de pont et de dialogue, je ne sais pas. Ce dialogue entre nous, même quand on ne se voyait pas pendant des années et des années.
Elle est devant témoin, je vais lui répondre oui.
Même s'il s'agit d'un rôle totalement à contre-emploi, celui d'une grand-mère, lavandière, Sadika, qui cherche l'amour sur fond d'épidémie de choléra, Dalida ne pouvait pas refuser. Elle, qui n'est pas retournée en Égypte depuis les années 50, voit dans ce projet une magnifique occasion de s'évader.
Vous n'avez pas peur que votre public soit stupéfait de vous retrouver en paysanne égyptienne?
Mais je crois que, au contraire, parce que si je restais la Dalida normale, telle que tout le monde me connaît dans un film, il n'y avait pas cet intérêt, ça surprend un peu. Et puis, c'est merveilleux parce que je suis vraiment dans le personnage. J'ai presque, je sais pas, j'ai perdu mon identité. Parce que c'est vrai, parce que les cheveux, bon, pour moi, c'est quelque chose d'important. Les mains, tout ça, on m'a coupé les ongles, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Je vis quelque chose de différent, une femme différente. J'ai perdu mon identité. Je ne sais pas qui c'est Dalida maintenant.
Aho, regarde le codeille. Proto a fait nil, te a défaut, a défaut. Wassal naskendereya, wabel nalengelezeya.
Aho, zoubillah.
Le Sixième Jour sort sur les écrans le 3 décembre 1986. L'équipe du film fait une promotion énorme. Dalida se rend sur tous les plateaux de télévision.
Dalida a accepté ce rôle ingrat, dur, noir. Elle a tout donné. Elle a eu toutes les couvertures populaires, intellectuelles et tout. Mais le film en lui-même, ça n'a pas marché, ça a été un échec, hein. Mais parce que le public, son public, n'avait pas envie de voir ça, Dalida, comme ça. Parce que la Dalida du Palais des Sports, elle avait disparu, vous comprenez?
Malgré l'échec du film, Dalida est heureuse d'être devenue Yolanda le temps d'un tournage et d'avoir pu rappeler qu'elle pouvait être une grande tragédienne. Mais cette expérience la perturbe. D'après Orlando, cela lui fait prendre conscience que son public ne voulait pas la voir vieillir.
Est-ce qu'elle voulait laisser à l'image d'elle, à son public, avec le visage de Sadika, en voile noire, son maquillage? Dalida voulait laisser l'image qu'elle vraiment, elle avait créée, Dalida, partir en pleine beauté encore et en plein succès touchée. Dalida ne voulait pas laisser cette image-là à son public. Elle a préféré s'en aller avant.
Dalida a d'autres projets dans la comédie, notamment une comédie musicale dans laquelle elle pourrait jouer le rôle de Cléopâtre. Elle parle également d'une pièce de théâtre, mais ses perspectives ne lui redonnent pas le moral. Dalida, hélas, est terriblement fatiguée. Depuis quelque temps, elle qui aimait tant accueillir du monde le dimanche, la porte de sa maison reste close. Même pour son frère, même pour son grand ami, Max Guazzini, directeur des programmes de la station Énergie, quelque chose s'est cassé. Il n'y a plus la flamme.
Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là.
Elle qui recevait tous les dimanches tous nos amis, qu'on rigolait, et après on jouait aux cartes avant au rami, et ensuite il y avait le fameux dîner que tout le monde la faisait rire, les auteurs, tout ça, on fait le cercle amical, pas tout le monde. Voilà ceux qui étaient là. On lui faisait la revue de la semaine. Elle avait fermé les deux dernières années, elle a fermé sa porte, elle ne recevait plus le dimanche. Elle faisait son métier et nous on voyait avec sa secrétaire qui est notre cousine Rosie et le cercle Antoine, Max qui était à côté, que Dalida n'allait pas bien. On la voyait dépérir, on ne pouvait rien faire.
Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule. Malade, cerné de barricade. Tantôt je suis malade.
Retranchée chez elle avec sa maquilleuse, Dalida n'accorde guère qu'à Anouk Aimé, sa voisine, l'honneur de partager sa table. La journée, Dalida fume cigarette sur cigarette, la nuit elle dort mal et comble ses insomnies en regardant des films de Louis de Funès, l'une des rares choses qui la fasse encore rire. Parfois on dirait qu'elle va mieux, comme en ce jour du 7 mars 1987, quand elle se rend au César du cinéma français. Il s'agira là de sa toute dernière apparition à la télévision. Auprès de ses proches, ses sorties passent pour des signes positifs, mais elle ne fait que retarder l'échéance. Un mois et demi plus tard, ce 29 avril 1987, Dalida donne aussi un gala en Turquie. Personne ne se doute alors que la star vit ses dernières heures.
48 heures avant qu'elle décide de partir, elle chantait sur scène à Antalya, en Turquie, devant le président turc.
Ce séjour la pousse à bout. Ses robes n'arrivent pas à temps. Le public entre dans la salle avant même la fin de ses répétitions. Bref, l'organisation est un désastre de A à Z. Le jeudi 30 avril 1987, elle rentre à Paris, exténuée.
Le vendredi, elle devait sortir avec un ami à elle, l'homme du moment, mais pas de la vie, mais du moment. C'est quelqu'un qui faisait un pas en avant et quatre en arrière. Cet homme-là était divorcé, mais son divorce s'est passé très mal, donc il avait peur de s'engager.
Cet homme, c'est le médecin François Naudy. Et alors qu'elle devait voir un spectacle avec lui, celui-ci annule au dernier moment.
Il a annulé la veille, elle n'a rien dit. Il nous a fait croire qu'elle allait au spectacle, mais ce n'est pas vrai. Elle est restée chez elle, et voilà, elle a renvoyé son personnel. Elle a fait semblant qu'elle sortait, mais elle a fait le tour avec son Austin. Elle est retournée à la maison quand elle a vu que Jacqueline était partie. Et elle a fait mes serments. Cette fois-ci, elle ne s'est pas loupée, comme on dit. On l'a trouvée le lendemain. C'est ça, c'est son habilleuse qui l'a trouvée le lendemain, le 3.
Dans un accès de tristesse et de désespoir, la chanteuse aux 120 millions de disques vendus écrit des lettres à ses proches. À son frère, Orlando, à ce dernier compagnon, François Naudy, et même aussi au public. Dans ses lettres, à chaque fois, la même phrase « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Quelques instants plus tard, Yolanda ou Dalida, on ne sait plus très bien, se donne la mort par surdose de barbiturique qu'elle avale avec du whisky.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs.
Le lendemain, le 3 mai 1987, à 18h précise, son habilleuse découvre son corps inerte en revenant rue d'Orchamps. Sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach semble surpris et ému, comme des millions de Français.
L'émotion qui a suivi l'annonce de sa disparition, de son suicide, démontre d'ailleurs bien la place qu'elle avait dans le cœur des Français. De ceux qui connaissaient ses chansons, qui pouvaient les chanter ou les fredonner, de ceux qui ne les écoutaient peu ou qui ne les connaissaient pas. C'était un personnage populaire de la scène et de la vie publique. Beaucoup ne comprennent pas que cette femme, qui semblait gâtée par la vie, qui avait eu un destin exemplaire de vedette, qui était entourée d'amis, aimée du public, ait pu ainsi décider de se donner la mort. Dalida entre dans cette légende noire des stars qui choisissent de disparaître parce qu'elles n'ont pas réussi leur vie personnelle, parce qu'elles ne supportent pas la solitude.
Pendant ce temps, devant la maison de l'artiste, des admirateurs se recueillent sous le choc.
Des fans de tous âges, certains visiblement très émus, comme cette femme interrogée par Brigitte Benkemoun.
J'avais 6 ans quand je l'ai connue. Merveilleuse. Quelqu'un. Elle faisait star pour les gens qui la connaissaient pas, alors qu'elle ne l'était pas du tout star.
C'était quelqu'un comment ?
Très humain, très gentil, très chaleureux et vrai surtout. J'ai passé toute ma vie qui s'en va. Il avait plein de projets encore à feu. Je comprends pas.
Les amis non plus ne comprennent pas, à l'instar de l'animateur et producteur Guy Lux qui a accompagné la carrière de la chanteuse pendant des années.
Elle était très seule en ce moment. Elle était très seule. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le fait des grands artistes, mais enfin, elle était. C'était une solitude un peu exagérée, elle avait pas. Elle était entourée d'amis, mais je veux dire, elle était seule au fond d'elle-même, c'est ça que je veux dire.
Le succès lui suffisait pas.
Oh, tu sais, c'était une femme exceptionnelle, je pense que le succès, c'est pas une vie, hein, c'est un complément.
Elle vous avait déjà parlé de sa solitude à vous?
Oui, enfin, vous savez, je suis comme tout un chacun. Quand on me parle comme ça, quand elle parlait comme ça, on essaie de parler d'autre chose.
Mariti Carpentier, productrice, avec son mari Gilbert, des émissions de variété les plus populaires des années 60 et 70, n'est de son côté pas si surprise. Dalida venait de lui confier son mal-être.
Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a quelques mois, nous l'avions emmenée à Marrakech pour une émission et on avait tourné une chanson dans laquelle elle était d'une beauté fabuleuse. Et une fois que la chanson a été tournée, elle m'a proposé que nous dînions ensemble. Et comme Gilbert avait pris froid qu'il était malade, nous nous sommes retrouvés en tout petit comité et elle m'a dit « On ne te voit jamais toute seule sans ton mari, toi ». Alors je dis « Oui, c'est vrai, c'est rare ». Elle m'a dit « Parce que toi, tu as réussi ta vie privée, mais moi, j'ai tout raté ». Et nous nous sommes mis à parler jusqu'à 2h du matin et elle m'a dit que sa vie était un échec épouvantable et j'en étais bouleversée parce que ce soir-là, elle ne pouvait même pas aller se coucher. Nous avons parlé. Je disais, mais est-ce que tu te rends compte des centaines de milliers de gens qui tu as donné une joie folle dans la vie et que de nombre de gens qui t'aiment, ça remplace d'une certaine façon l'amour dans le privé. Est-ce que tu te rends compte de ça? Et elle me disait, oui, je sais, tu as raison de me le dire, mais quand même.
Les témoignages entendus sur Europe 1 en ce début du mois de mai 1987 dessinent les contours d'une Dalida encore plus seule que le grand public aurait pu le penser. L'histoire de Dalida est celle d'une femme terriblement blessée, blessée par la vie, mais qui a fait beaucoup d'heureux. Le 7 mai 1987, les obsèques religieuses doivent avoir lieu à l'église Saint-Jean de Montmartre, mais elle est jugée trop petite pour accueillir tous les admirateurs et les amis de la chanteuse. Finalement, une dérogation permet de célébrer la cérémonie en l'église de la Madeleine, l'une des plus grandes de Paris, et où l'écrivain Claude Manseron, proche du président François Mitterrand, lui-même proche de Dalida, est chargé de faire un discours.
Yolanda, le président de la République et Daniel Mitterrand t'aimaient. Ils ont chargé, en ma personne, ton ami depuis plus tantôt 20 ans, de te dire ce soir au revoir et merci. Depuis l'enfance atroce dans le faubourg du Caire jusqu'à l'accident qui vient de te faire tomber dans ce trou absurde, tu as lutté constamment pour vivre, pour être, pour donner de ta vie et de ton être le meilleur. Depuis que tu as adopté la France comme patrie principale aux citoyennes du monde, tu as montré plus que tant et tant d'autres ce qu'un immigré peut apporter de grand et de plus à la patrie française. Yolanda, au revoir. Dalida, merci.
Pour tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine.
Le cercueil de Dalida est recouvert d'immenses gerbes de fleurs, au premier rang la famille, puis les amis, Sheila, Claude Lelouch, Hervé Villard ou Alain Delon. Au total, 40 000 personnes sont présentes. Des milliers d'entre elles suivent la cérémonie depuis l'extérieur où des haut-parleurs diffusent la messe.
Je représente la grande chanson française et c'était une des dernières grandes chanteuses françaises.
Vous l'ayez beaucoup parlé.
Et vous, pourquoi vous êtes... qu'est-ce qu'elle représentait, Dalida, pour...
J'adorais Dalida énormément. Ça fait beaucoup de peine qu'elle soit partie comme ça.
Vous pensiez qu'elle se suiciderait?
Non, je croyais pas. Non, pas du tout. Une grande artiste comme ça aurait pas dû s'en aller dans des circonstances comme ça.
C'est triste, hein. Bon, j'aime bien les chanteurs de maintenant, mais Dalida, quand même, c'était une grande actrice. Hein. Artiste, pardon. Enfin, je veux dire que vraiment, c'était une bonne chanteuse. Hein.
J'ai l'impression que pour vous, c'était plus qu'une chanteuse.
Ben, j'ai 44 ans. Je l'ai connue quand elle chantait Bambino. C'était un de mes premiers disques. Romantica et Jour la pluie viendra et tout ça. Je l'ai toujours suivi.
Finalement, ces chansons ont suivi toute votre vie, peut-être.
Mais bien sûr.
Dalida repose près de chez elle, dans la partie haute du cimetière de Montmartre. Sa tombe est facile à repérer, c'est toujours la plus fleurie. Il y a aussi dans son quartier ce buste de Dalida, grandeur nature, rue de l'Abreuvoir. Yolanda s'est sacrifiée, elle est partie pour que Dalida vive toujours, dit Orlando. Selon lui, en partant dans l'éternité, elle a choisi une autre façon d'être là.
Quand elle est partie, Dalida, le mot mort a été banni. On ne l'a jamais prononcé, ni moi, ni mon bureau. On disait, elle est partie.
Bye bye.
C'était Destin extraordinaire, Dalida, raconté par Pascal Praud. Vous venez d'écouter la première partie de ce podcast que vous retrouverez évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée et sur europe1.fr. Et on vous donne rendez-vous la nuit prochaine pour la seconde partie. Ce sera à 1h sur Europe 1, juste après la libre antenne. Dans un instant, on va parler des vocations professionnelles avec notre psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont, accompagnée de Romain Desarbres. Et si on en parlait en nouvelle diffusion, c'est donc juste après le groupe belge Puggy, en collaboration avec la gagnante de la 7e saison de The Voice en 2018, Maëlle. Voici Mirror.
Miroir, 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 qui es-tu ? Je reconnais plus mon reflet, je reconnais plus mon reflet. All to see what's in my reflection. I've lost the connection, forgot who I wanted to be. Why do I feel like a stranger? Why do I feel like I'm caught in a dream? Why do I feel like I don't really know who it is or it was that I thought I should be? So who am I now? Yeah, who am I?
Mirror, une nouveauté Europe 1 signée le groupe belge Puggy, qui mêle donc le français et l'anglais sur ce titre avec la chanteuse française Maëlle. Allez, la nuit se poursuit en compagnie de notre psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont et de Romain Desarbres. Vous les retrouvez du lundi au vendredi de 15h à 16h sur Europe 1. Et si on en parlait, la séance de rattrapage de ce vendredi, c'est maintenant. Excellente nuit à tous.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de la vocation, ce vers quoi le destin semble nous appeler. Certains rencontrent la vocation très jeune, certains très tardivement, certains jamais. On en parle aujourd'hui avec vous, Marie-Estelle Dupont.
Oui, la vocation appelle et nous dit-on en crise. Encore une crise. Alors plutôt que de parler de crise avec tout ce que cela a d'angoissant et d'inéluctable, il me semble intéressant de parler d'une transformation profonde du rapport au travail, non seulement de l'organisation du travail, bien sûr, mais aussi de la quête de sens que nous y plaçons. Évidemment, la société de consommation qui s'est désincarnée avec la numérisation et l'automatisation, c'est difficile de parler à un être humain pour réserver un billet d'avion ou payer ses courses. La bureaucratisation de nombreux métiers humains qui en a détourné peut-être le sens premier. Les formes de management infantilisantes qui ont fleuri depuis les années 90 ont une responsabilité importante dans ce qu'on appelle la crise des vocations chez les enseignants, les infirmiers, les artisans, les maires de petites bourgades. Mais on assiste aussi à un désir accru que le travail ait du sens, pas seulement pour qu'il nous donne une place dans le corps social et nous permette d'assumer une famille, mais véritablement un épanouissement intérieur. Alors si les listes officielles de métiers en tension s'allongent chaque année, plus de 80 secteurs rien qu'en France, des centaines de milliers de postes restent désespérément vacants, une immense partie des actifs, et surtout les 20-35 ans, déclarent vouloir avant tout un métier qui fait sens, aligné sur leurs valeurs, utile au monde, épanouissant. On veut moins un statut social, une carrière stable ou rentable, qu'une réponse existentielle. Mais la vocation professionnelle n'est pas toujours une évidence fulgurante découverte à 16 ans. Je crois qu'en 2026, le défi que nous avons peut-être à relever pour la génération qui arrive est de redonner au mot « métier » sa noblesse ancienne, un savoir-faire mis au service de quelque chose de plus grand que soi, sans prendre les vessies des influenceurs bling-bling pour des lanternes d'accomplissement personnel. Narcisse au travail est un être malheureux, me semble-t-il, un Stakhanov virtuel qui condamne nos enfants à se sentir frustrés dans la normalité de l'effort à consentir pour progresser. Encore faudra-t-il pour cela que nous sachions nous protéger de l'intelligence artificielle, qui est surtout artificielle, puisque l'intelligence est une caractéristique du vivant. Alors oui, chers auditeurs d'Europe 1, certains métiers vont disparaître, mais est-ce que cela ne doit pas nous inviter à sauver précisément la créativité et l'imaginaire de nos enfants, puisque quoi qu'il arrive, leur productivité stricte sera toujours avantageusement remplacée par des machines? Pour en parler, je reçois Sabine Van Vlanderen Badinter.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir, je suis ravie d'être là.
Bonjour Sabine Van Vlanderen Badinter, merci
Bonjour.
Beaucoup d'être là.
Bonjour Romain.
Délégué général de la Fondation de la Vocation, Marcel Bleustein-Blanchet, vous allez nous en parler. Marie-Estelle Dupont, vous avez dit beaucoup de choses dans votre édito. Évidemment, on va commencer déjà par définir la vocation. Est-ce que la vocation, c'est uniquement la vocation religieuse, la vocation pour être médecin, pour être professeur, enseignant? Qu'est-ce que vous en dites?
Vocare, hein, en latin, ça veut dire appelé. Hein, donc, on se sent appelé. Dans la vocation, il y a quelque chose qui m'arrive, en fait, que je ne décide pas le premier moment de la vocation. C'est presque une découverte, c'est presque une rencontre avec un appel à l'intérieur
ça
de
s'impose.
Soi. C'est vrai dans la vocation religieuse, c'est vrai dans la vocation de médecin, c'est vrai. Mais en réalité, la vocation nécessite toujours un temps de discernement et on le voit particulièrement chez les séminaristes. On leur demande de faire la part entre la véritable vocation, le véritable appel spirituel et puis peut-être des conditionnements familiaux, des traumas pas réglés qui feraient qu'il y aurait quelque chose de rassurant à s'extraire de la compétition, de l'entreprise, par exemple, ou des liens familiaux. Donc la vocation, c'est aussi un travail de discernement de quelle est ma place, qu'est-ce que j'ai à apporter au collectif. Et cette question de la place, finalement, je crois que elle se fait sentir particulièrement chez nos adolescents à qui on demande beaucoup trop tôt de s'orienter. Alors qu'ils n'ont que les matières scolaires qu'ils étudient et une très faible connaissance du monde du travail. On leur demande déjà de choisir des options, etc. Alors que finalement, ils n'ont pas encore, eux, discerné ce à quoi ils se sentent appelés. Alors à 10 ans, un tel, parce qu'il a eu un accident de vélo et qu'il s'est bien entendu avec le médecin qui l'a soigné, veut être chirurgien parce qu'il trouve que c'est fantastique ce qu'il a fait. Moi, à 11 ans, je voulais être psychologue. Donc, je dirais que certains d'entre nous avons la chance de ressentir très clairement quelque chose assez jeune. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne vivent pas ça n'ont pas une vocation. Ça va peut-être leur demander juste un peu plus de temps de la découvrir. C'est peut-être parfois d'ailleurs une épreuve un peu plus tardive dans la vie qui va leur permettre de la découvrir et ça va donner lieu à une reconversion professionnelle. Et je crois que la question de la vocation, elle est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, on sent que la nouvelle génération, elle veut un travail qui ait du sens et qui soit une fin en soi, non pas au sens de faire carrière est une fin en soi, mais au sens où ce que je fais doit être en axe avec mes valeurs, ça doit contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ou à des valeurs humanistes, alors que peut-être, il y a une ou deux générations, c'était vraiment cantonné à la question du statut social. Donc il fallait un statut social, il fallait faire vivre sa famille, mais le travail restait un moyen, parfois un rôle dans lequel on s'enfermait parce qu'on échouait sur le plan familial, etc. rassurant. Aujourd'hui, c'est un peu différent. La question du sens du travail est vraiment au cœur des questionnements des jeunes générations. Mmh. Alors, Sabine von Vlaanderen Badinter, vous êtes déléguée générale de la Fondation des Vocations. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs d'Europe 1 quelle est la vocation justement de cette fondation et puis surtout le contexte magnifique et tragique à la fois dans lequel
la fondation est née. Alors, vous l'avez dit, c'est la fondation de la vocation Marcel Blessane-Blanchet, du nom de son fondateur, qui est le fondateur par ailleurs de Publicis aussi. Il est né vraiment dans son histoire personnelle. Il avait donc fondé Publicis, qu'il a perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là, en rejoignant l'Angleterre, qu'il est fait prisonnier dans les Pyrénées et où il reste pendant quelques mois. Et lui, qui en fait avait été en rupture familiale, ses parents et ses oncles vendaient des meubles. Il était allé voir son père en lui disant qu'il allait prendre un autre chemin et qu'il était appelé, lui, par la réclame et la publicité, ce qui avait créé, on va dire, une petite crise au sein de la famille. Mais il en avait tiré une telle joie de vivre qu'il s'est dit, au moment où il était prisonnier, si je sors vivant de ce moment vraiment compliqué et tragique de ma vie, je ferai un jour quelque chose pour un jeune. Donc quand il revient, il reprend les rênes de l'entreprise qu'il avait dû laisser. Et en 59, il décide de réunir un jury de personnalités vraiment d'exception en leur disant, voilà, je vais avoir besoin de vous, non pas pour de l'argent dans un premier temps, ça vient après avec de nombreux mécènes qui se sont associés à l'aventure, mais pour venir m'aider à sélectionner et à donner leur chance à des jeunes qui ont une vocation profondément ancrée, quel que soit le domaine d'activité. Je rappelle que nous soutenons toutes les vocations hors politique et religieuse, avec un principe fondamental qui est de ne pas mettre d'hiérarchie entre les métiers. Donc les métiers manuels, scientifiques et autres se valent tous. Et voilà, on va les accompagner de deux manières, par un prix d'abord doté financièrement pour leur permettre de franchir une étape vraiment critique face à laquelle ils sont, et puis ensuite pour créer, et c'était je pense assez novateur à l'époque, l'idée d'un réseau d'entraide. C'est-à-dire que la vocation, elle a besoin aussi d'être soutenue, d'être appréciée, regardée et accompagnée. Et pour ça, quand il y a un réseau de personnes qui se constituent autour de vous et qui vous encouragent année après année et qui vous aide à franchir des étapes dans votre vie professionnelle, c'est vraiment un atout extrêmement précieux et c'est ce qui s'est attelé à faire.
En fait, il y avait des corporations autrefois et quelque part vous recréez ce maillage.
Exactement.
Au sein d'un même corps de métier, avec des aînés qui transmettent aussi peut-être des clés, des
aînés qui transmettent
conseils.
Et puis aujourd'hui des membres du jury, des mécènes, etc., et des amis de la fondation qui constituent en fait un vivier de personnes qui sont des accélérateurs de parcours qui vont pouvoir aider et accompagner.
Offrir des expériences professionnelles, par exemple.
Oui, ça peut être ça. Ça peut être trouver des stages, trouver du travail, donner des conseils et puis être entendu aussi. Je pense que quand on a une vocation, on peut, vous le disiez tout à l'heure, les jeunes, en fait, quand vous demandez à un enfant quel métier as-tu envie d'exercer, en général, il a une réponse. Très spontané. Et plus le temps passe, plus la situation se complique, parce que la vie se greffe à ça, l'environnement social, l'environnement culturel, et qui vient petit à petit, parfois étouffer ses vocations.
Projeter des choses.
Exactement. Et donc, en fait, nous, notre souhait permanent, c'est de faire en sorte que ces vocations naissantes, parfois fragiles, ne s'éteignent pas. Parce qu'on est persuadé que quelqu'un qui a reçu ou vit cet appel un peu irrésistible dont il ne peut pas se détourner, c'est une richesse absolument précieuse pour une société. Et ce sont des jeunes qui, ensuite, ont des vies professionnelles très satisfaisantes, réjouissantes, et qui, comme le disait Marcel, exerçaient leur métier dans la joie de vivre. Mmh. Et c'est ça, en fait, qu'on va chercher. On espère ne pas se priver de tous ces talents qui ne comptent pas les heures, qui sont extrêmement motivés et passionnés, et donc des vrais vecteurs, on va dire, de sens aussi pour les autres. Oui. Et donc des figures d'inspiration pour beaucoup d'autres derrière.
Oui, l'idée, c'est si ce rêve est à l'intérieur de toi, c'est que tu es le seul à pouvoir le réaliser.
Exactement.
Donc écoute-le.
Exactement.
Mais je crois que c'est très important ce que vous dites sur l'écoute, c'est-à-dire que quand on a une vocation, ça veut dire que on a une sorte de désir, de vision qui s'impose. Et à 15 ans, à 16 ans, il est extrêmement difficile dans certaines familles où les projections parentales ou les projections du milieu social peuvent être très fortes, de faire comprendre que ce désir est légitime.
Absolument.
Parce qu'on n'a pas les billes, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'expérience pour prouver que, on n'a rien en fait, on est pauvre à 15 ans. Mmh. On a plein d'envie et on n'a pas beaucoup de moyens, on n'est pas armé pour
il peut y avoir un sentiment de solitude en fait.
Avec papa qui veut que vous fassiez polytechnique, avec maman qui dit non, mais c'est pas une profession pour les femmes, enfin voilà. Donc je crois que c'est très important d'écouter un jeune qui a une vocation, parce que c'est aussi le soutenir dans un sentiment qu'il peut avoir d'illégitimité, parce que la peur de l'échec, elle est d'autant plus grande que vous sortez du chemin qu'on a tracé pour vous. C'est-à-dire, quand on vous dit le fils aîné il est médecin donc tu feras médecine, déjà on a peur de rater, mais si en plus on dit bah non je vais pas faire médecine parce que moi je veux être photographe, on se dit si je me plante j'aurai vraiment tous les torts, puisque j'aurai transgressé la projection familiale et en plus, je n'aurais pas prouvé que j'avais raison. Donc, je pense qu'ils ont vraiment besoin d'écoute, les jeunes, qui ont, même pour formaliser aujourd'hui leur vocation. Parce que parfois, ils l'ont, mais ils n'arrivent pas à la mettre en mots. Et je pense que c'est très important, cette écoute et le fait qu'on prenne au sérieux que, bah oui, leur potentiel à eux, leur valeur ajoutée à eux, leur personnalité fait que, eh ben, ce serait du gâchis de faire une école de commerce. Parce qu'en fait, c'est là-dedans ils vont être moyens, alors que s'ils suivent leur voie VOIX et VOIE intérieure, ils vont être probablement les meilleurs dans ce domaine parce qu'ils seront animés par l'amour de ce qu'ils font.
Exactement, c'est le cas de beaucoup de lauréats d'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure que les vocations peuvent se révéler tardivement. Or, j'ai l'impression que nous, à la Fondation, on est parfois un révélateur de vocation. C'est-à-dire que certains, en fait, en remplissant leur dossier, se rendent compte finalement que tout ce qu'ils ont accompli depuis 10 ou 15 ans, c'est le fruit en fait d'une vocation en construction. Et qu'elle emporte le nom. Mais eux ne mettent pas forcément ce nom là-dessus.
Ils n'en avaient pas conscience.
Ils n'en avaient pas pleinement conscience. Mmh. Et ils viennent nous voir en disant, en fait, on a regardé ce qu'on avait produit jusqu'à maintenant. Les parcours semés d'embûches, les obstacles qui ont été franchis les uns après les autres, sans jamais renoncer. Et ensuite, ce moment où la vocation est reconnue, par des personnalités, on va dire, hein, reconnues dans leur domaine, etc., ça leur donne évidemment cette force et cette légitimité dont vous parliez, qui leur donne des ailes. Et on voit une réelle transformation, en fait, quand ça c'est clairement acté, apprécié et reconnu. Et
oui, parce qu'ils se sentent à leur place.
D'un seul coup, il y a un élan extraordinaire. Absolument, ils se sentent à leur place. Et ils se sentent non seulement à leur place, mais en plus investi de la confiance qu'il leur est accordée. Et c'est très puissant, en fait, de voir ça. Et parce que,
oui, donc vous leur dites, je te prends au sérieux, ce que tu veux faire est important, et je vais t'aider à en trouver les moyens.
Exact. Exact.
Donc vous construisez de la confiance.
Oui, je pense que le facteur de confiance est déterminant dans le processus.
Oui, c'est quand même plus sympa de se projeter dans sa vie professionnelle avec un peu de confiance que uniquement avec de la peur. Et ils sont quand même biberonnés à la peur, les jeunes d'aujourd'hui. Oui, la peur, puis, l'incertitude économique, etc.
Exactement,
etc.
Il y a tous ces facteurs, évidemment, qui viennent compliquer les choix aussi. Il y a un phénomène d'autocensure, je pense, chez les jeunes, qui est assez puissant, selon les contextes, justement, culturels, socio-économiques, et d'idées préconçues sur certains métiers, parce qu'on parle parfois, par exemple, des jeunes de banlieue, qui auraient plus de difficultés d'accéder à certains métiers. C'est une réalité, mais l'inverse aussi, le politique technicien qui n'a pas envie de cette voie-là. Nous, on a par exemple un lauréat qui a fait Polytechnique pour faire plaisir à ses parents, mais dont le rêve absolu était d'être berger. Alors, il a fait Polytechnique, il a dit voilà, c'est fait.
Il a coché la case.
Il a coché la case, et aujourd'hui, il est berger.
Et
c'est un, je veux dire, c'est un lauréat qui, quand vous l'appelez...
Il aurait été malheureux dans un ministère. Hein.
Mais je pense, et il est très, très heureux aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est être à sa place, en fait.
Oui.
Trouver sa place.
Comment est-ce que la fondation de la vocation, dont vous êtes déléguée générale, Sabine Van Venderen Badinter, comment la vocation estime l'intensité, comment la fondation estime l'intensité de la vocation des jeunes ?
Alors, on a un système de sélection qui s'étend de janvier à octobre, donc c'est vraiment un long processus, des dossiers à remplir, à certains stades, des experts. Nous sommes accompagnés de 110 experts dans tous les domaines qu'on est amenés à étudier, qui étudient ces dossiers avec nous, qui nous font des fiches de rapport. Et puis après, c'est des heures d'échange avec, on va dire, les derniers 240 candidats sur plus de 1000 candidatures par
240
an.
240 candidats.
Oui, 240, ouais. Vraiment, on va dire, à la fin du processus de sélection.
Avec qui vous échangez.
Oui, exactement, ouais. Sur plus de 1000 candidatures tous les ans. Et donc, c'est vraiment... On leur pose beaucoup de questions. Hein. Le dossier est très dense. C'est la naissance de leur vocation, leur histoire personnelle. Et on va essayer d'apprécier. Alors évidemment, un certain, je dirais, on vise une forme d'excellence, même si c'est une excellence en devenir, mais on sent ça quand même. Et puis, tous nos lauréats en commun, c'est d'ailleurs une des conditions pour être éligible au prix, d'être confrontés à des difficultés financières. Nous ne sommes pas là pour célébrer les vocations, mais pour permettre à celles qui sont confrontées à des difficultés de poursuivre.
Qui ont un obstacle,
exactement.
Et notamment financier.
Exactement.
Uniquement financier ou.
En tout cas, financier.
Oui, financier, oui, oui.
Les problèmes
les
sont
études,
parfois
un voyage,
multiples, hein,
oui.
Mais en tout cas, financier.
Bah oui,
il faut qu'il y ait vraiment une difficulté. Oui, ça peut être un stage à l'étranger, une poursuite d'études.
Payer un billet d'avion, un logement.
Oui, exactement. Ouais, exactement. Ouais. Ça peut être tout ça. Ça peut aussi être aider certains à équiper un atelier. Enfin, voilà, c'est assez, assez vaste. Et puis ensuite, je dirais que c'est peut-être les années de pratique où on voit quand même dans les tripes,
ouais.
Quand les gens sont animés.
Et ça, vous le flairez. Vous le ressentez.
J'espère qu'on ne passe pas à côté de trop de candidats. Mais oui, c'est pas simple. Mais quand on combine tous les éléments entre les retours d'experts, et puis on les présente à un jury. Hein. À la fin, c'est le jury qui est maître.
Ouais. Marie-Estelle Dupont, de quoi a besoin un jeune qui a une vocation ? De quoi a-t-il besoin ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Et bien justement, de cette écoute pour parfois avoir la force de se positionner par rapport à des projections familiales dont il sent que... s'il suit la voie toute tracée qu'on lui fait dans la banque ou l'assurance, il va finir dépressif et en burn-out une fois par an.
Mm-hmm.
Et donc l'aider à le soutenir dans la légitimité de son désir, qui ne veut pas dire envoyer balader les parents parce que c'est de son âge et pour le plaisir d'envoyer balader les parents, mais qui veut dire là je sens qu'il y a quelque chose chez toi d'un potentiel qui cherche la bonne forme, le bon moule pour s'exprimer, mais que tu as tous les ingrédients pour faire quelque chose de construit, et que la rencontre entre les contraintes du monde extérieur et le désir intérieur que tu ressens va être féconde et donner lieu à quelque chose de réussi et de joyeux, comme vous dites. Je pense aussi que quand vous disiez ils ont besoin d'être écoutés pour ne pas s'autocensurer, qu'il y a une part d'autocensure, mais je crois que c'est même plus profond que ça. Il y a un rétrécissement de leur imaginaire. Et que les réseaux sociaux les mettent face à des modèles identificatoires qui n'en sont pas, notamment des modèles qui assimilent la réussite à des métiers comme influenceur et des choses incroyablement uniformisantes, répétitives, anonymes, où il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas de créativité, il y a des paillettes, il y a du toc, il y a beaucoup d'argent, mais il y a en fait rien d'une rencontre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et donc, il y a un rétrécissement du rêve et de l'imaginaire chez les jeunes. Nous, on a une association qui amène le rêve à l'hôpital, qui essaye de remettre en route chez les enfants malades. Là, dans le domaine de la maladie, il y a besoin de remettre l'imaginaire en route chez les jeunes aujourd'hui. Parce qu'on est dans une société de l'image qui a tendance à abraser l'imaginaire personnel. Or, c'est ces ressources de subjectivité qui permettent de dessiner son chemin professionnel. Et surtout de tenir bon quand c'est dur, parce que quand vous marchez dans les pas de quelqu'un d'autre, le chemin est toujours plus facile que quand vous tracez votre propre route. Vous allez rencontrer l'adversité, vous allez rencontrer des gens pas sympas, qui n'ont pas réussi à accomplir leurs rêves et qui sont frustrés, qui vont vous dire tu vois, tu peux pas réussir. C'est au lieu de vous dire là c'est un obstacle, mais tu vas le surmonter. Donc ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin qu'on les renforce dans leur sentiment de légitimité, qu'on leur fasse comprendre qu'ils sont capables, qu'on discute entre générations aussi, parce que avant eux, il y a d'autres gens qui ont écouté leurs rêves. Et c'est probablement ce qu'a fait Marcel Bleustein-Blanchet en s'accrochant à ce rêve qui lui a permis de survivre à toutes les horreurs qu'il traversait. Et je pense qu'ils ont besoin qu'on les aide à faire passer la vocation au stade du projet. C'est-à-dire comment j'implémente dans la réalité, comment je concrétise, et c'est ça que vous faites avec vos mécénats, etc., etc. Mais ils ont besoin qu'on leur fasse comprendre que ça se concrétise et que c'est pas quelque chose qui reste un rêve inaccessible quelque part dans la tête.
On est sur Europe 1, et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont, et aujourd'hui avec Sabine Van Vlenderen Badinter, déléguée générale de la Fondation de la Vocation Marcel Bleustein-Blanchet. On se retrouve dans quelques instants, restez bien avec nous sur Europe 1.
Marie-Estelle Dupont,
15h, 16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Et si on en parlait, on est ensemble sur Europe 1 avec vous Marie-Estelle Dupont, on parle de la vocation, des vocations professionnelles et on est avec Sabine Van Vlenderen Badinter, déléguée générale de la Fondation de la Vocation Marcel Bleustein-Blanchet. Vous y faisiez allusion dans la première partie de l'émission, Marie-Estelle Dupont, la nouvelle approche que les jeunes et qu'on a du travail. Est-ce que la notion de vocation a évolué avec cette nouvelle approche qu'on a du travail ?
Ce qu'il y a, c'est que la question du sens, elle est beaucoup plus au cœur du rapport au travail. On a eu une évolution de l'organisation du travail progressive depuis le XVIIe siècle. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, dans l'Antiquité chez les Grecs, c'est ce que rappelle Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt dans la condition de l'homme moderne. Elle dit chez les Grecs, le travail, il était plutôt méprisé. C'est-à-dire que c'était les esclaves et les femmes qui travaillaient parce que c'était la nécessité. Le travail était strictement la nécessité alimentaire. Et puis, à un moment donné, avec notamment la révolution industrielle, le travail, l'émergence de la bourgeoisie, le travail est devenu central. Le travail est devenu le prestige social. La réussite est très importante, on s'identifie à sa profession. Avant ça, les corporations sont déjà très soudées, donc il y a une espèce de solidarité entre gens de la même profession. Donc le travail va devenir très important. Et puis il y a à nouveau un palier, c'est-à-dire qu'à partir des années 70, avec cette société quand même qui se définit de manière extrêmement matérialiste et extrêmement individualiste, avec cette course à l'image, avec cet individu qui prime sur le collectif, il y a des répercussions, il y a des effets papillons sur le rapport au travail et sur l'organisation du travail. Et notamment, avec la société de consommation de masse, de divertissement de masse, il y a une désacralisation du travailleur. En fait, le travailleur est interchangeable. D'ailleurs, on voit bien comment la mondialisation accélère l'utilisation de l'immigration comme un levier de rentabilité pour les entreprises. C'est beaucoup de main-d'œuvre facile à déplacer, facile à faire venir et qu'on peut payer pas très cher. Donc, en fait, la notion de travail, elle évolue. Et bien évidemment, l'envers de ça ou l'autre versant de ça, c'est que de plus en plus dans les jeunes générations, on dit mais attendez. Quel est le sens du travail ? Parce que si les organisations, avec un management très infantilisant, avec une interchangeabilité, alors que quand même, il y a 50 ans dans les entreprises, les places étaient respectées, il y avait quelque chose dans la hiérarchie qui fonctionnait, dont on n'attendait pas d'ailleurs d'être tout dans l'épanouissement de quelqu'un, mais où quelque chose du respect des places de chacun était là. Et cette interchangeabilité fait énormément souffrir psychiquement l'individu qui aujourd'hui dit « Non mais moi je veux que ce que je fais ait du sens. » Et donc, la pathologie de la modernité, c'est le burn-out, qui est une maladie du sens, pas une maladie de la charge de travail. Enfin, pas seulement en tout cas. Paradoxalement, on se retrouve en fait à dire la technique va nous libérer du travail, mais finalement, c'est la consommation qui envahit tout et qui nous rend esclaves. Et donc, on se retrouve dans un travail qui parfois est un bullshit job, disons-le. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société, on va très mal payer les gens qui s'occupent des petits, les gens qui s'occupent des personnes âgées, donc de tous ceux qui sont vulnérables, les enseignants, les infirmiers. Par contre, vous allez payer des fortunes, des types qui sont de parfaits ignorants, arrogants, dans des cabinets à la Défense, à produire des bullshit slogans et du marketing dans lequel on va tous plonger le week-end d'ailleurs, parce qu'on va faire des achats inutiles. Donc il y a une évolution du monde du travail, du sens du travail, et donc évidemment, les jeunes se projettent différemment de nos aînés dans le travail. Ils veulent que ça ait du sens, donc ça remet la question de la vocation au cœur. C'est-à-dire, si je sens pas que c'est aligné avec mes valeurs, j'ai pas envie d'y aller. Je vais pas y aller parce que mon milieu social dit que le fils aîné dans ce milieu fait ça. Non, j'y vais parce que il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de moi. Et je pense qu'en fait, dans l'organisation de l'institution scolaire aujourd'hui, c'est très difficile, notamment avec la réforme du bac, les choix d'options, etc., pour les jeunes, de se retrouver. Et que donc, des initiatives comme cette fondation a tout son sens, parce que c'est des initiatives de la société civile qui viennent pallier un manque dans le collectif, qui est un manque de réponse, en fait. Parce que un jeune qui a une vocation, il a surtout des questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je pense, comme vous le dites, l'école n'est peut-être pas forcément aujourd'hui le meilleur endroit pour trouver des réponses, parce qu'il y a aussi un sujet de source d'inspiration. Nous, c'est vrai que c'est un de nos axes de développement en 2026. C'est un projet qu'on va développer avec le ministère de l'Éducation nationale, et c'est d'envoyer nos lauréats en tant qu'ambassadeurs de vocation dans les écoles, notamment au collège, pour donner des sources d'inspiration à ces jeunes collégiens pour qu'ils s'autorisent éventuellement à rêver et à poursuivre dans certaines voies qui sont peut-être pour certains inhabituelles, ou en tout cas quand ils manquent de soutien dans leur environnement proche. Et puis il y a un lien évident avec le travail aussi, c'est-à-dire que quand on a trouvé ce pour quoi on était fait, on ne compte pas les heures.
Oui.
Le travail n'est plus du travail, le travail devient un travail plaisir. Donc à force de faire, vous finissez par être bon.
Bah oui.
Quand vous êtes bon, vous interpellez les autres.
Oui, et puis
il y a du plaisir personnel.
Et on irradie.
Donc évidemment, on rayonne personnel, mais on rayonne aussi dans une famille, on rayonne dans une communauté, on donne envie, on partage, parce qu'il y a la question de la transmission aussi dans, je dirais, l'éducation au sens large. Et voilà. Exceller, faire, c'est aussi la garantie de pouvoir transmettre. Et pouvoir transmettre, c'est aussi la garantie que les métiers perdurent, qui continuent. On a des lauréats campanologues qui sont des spécialistes des cloches. On a des lauréats
des joailliers,
des joailliers, des lauréats spécialistes du patrimoine de pierre, de
souffleurs de verre,
des souffleurs de verre.
Ingénieur à la NASA.
Il y a absolument Alan Petre, un ingénieur à la NASA. Lui, il était à 3 semaines de ne pas pouvoir partir. Sans financement d'une fondation ou d'un gouvernement, son stage à la NASA n'était pas possible.
Et aujourd'hui, c'est un Français installé à la NASA.
Ouais. Exactement. En tout cas, c'est un Français qui, ingénieur en aérospatial, qui est parti à la NASA, qui va maintenant faire un doctorat, mais qui est rentré en France aussi. Mais c'est souvent cette question qui nous est posée. Vos lauréats qui partent aux quatre coins du monde, est-ce qu'ils reviennent? Alors, je rassure.
Bonne question.
Je rassure ceux qui nous écoutent.
Parfois, ils rentrent à la maison.
Beaucoup reviennent. Et Alan, par exemple, fera partie de ces jeunes lauréats qui iront dans les écoles. Et puis avec ce qui est formidable, je pense, c'est ce sont des jeunes qui ressemblent à leur audience. Mmh. Voilà, c'est pas une sorte d'ordre qui vient du dessus, intéressez-vous à tous les métiers. Ce sont des gens qui leur ressemblent et auxquels on peut donc s'identifier plus facilement. Mais voilà, je pense
c'est un destin extraordinaire. Vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu plus d'Alain.
Oui, alors Alain, il a toujours voulu être ingénieur en aérospatial. Il a eu un parcours d'études, enfin il a dû prendre des voies un petit peu détournées parce qu'il a dû cumuler des stages. Il vivait entre deux villes assez éloignées les unes des autres, donc il a fait ça aussi en alternance, parce que c'était une nécessité financière de le faire en alternance, et voilà, il a envoyé ses candidatures, on va dire de manière relativement spontanée, à la NASA au moment des stages. Ses résultats étant très très bons, et puis il avait un parcours aussi, je dirais, qui dénotait d'une forme de détermination et de courage. Il travaillait le week-end, il travaillait la nuit, enfin je veux dire, rien n'était trop pour aller jusqu'au bout de son rêve.
Venant d'un milieu, comment vous le qualifieriez
Écoutez, il a grandi dans une banlieue à côté de Paris. Je sais que son papa, c'est une histoire assez merveilleuse, a passé un diplôme d'ingénieur, mais sur le tard,
ouais.
Je dirais quasiment en fin de carrière,
ouais.
Dans une famille, vraiment dans un soutien, voilà, très, très, très aimante, etc. Ouais. Mais pas, je dirais, relativement modeste.
Et avec un destin voilà, qui est
formidable. Et puis animé par une passion extraordinaire.
Sur la quête de sens dont parlait Marie-Estelle Dupont à l'instant, vous la constatez chez les jeunes qui déposent des dossiers. Il y a une quête de sens qui est plus importante qu'il y a quelques années.
Écoutez, je pense que la quête de sens, elle est omniprésente en fait. Alors c'est peut-être plus précis dans certains domaines. On parlait de climat tout à l'heure, d'environnement. Dans ces dossiers-là, on sent une sorte d'urgence qui caractérise en général ces destins. Mais je dirais que pour tous, c'est presque une évidence, enfin c'est un chemin dont ils ne peuvent pas se détourner. Donc le sens, il est là-dedans aussi, il est dans le métier, mais il est aussi dans cette nécessité d'aller jusqu'au bout de quelque chose qu'ils ont ressenti comme étant essentiel pour leur bonheur et pour une existence réussie, je dirais.
Je crois qu'il y a, en fait, là, il n'y a pas de quête du sens, il y a une évidence. Il y a une rencontre.
Exactement.
C'est une évidence. Donc, de toute façon, c'est une nécessité d'écrire, c'est une nécessité de faire des photos, c'est une nécessité d'eux.
Ils ne peuvent pas s'en détourner.
Et donc,
en fait,
c'est chez eux, il n'y a pas la quête de sens. C'était l'évidence a jailli. Ce qui est difficile, c'est de négocier cette évidence intérieure avec peut-être des peurs ou des attentes familiales. Et il y a des familles qui disent, c'est dur pour nous, la vocation de notre enfant, parce que ça va l'éloigner de nous, parce que ça veut dire, expliquer à ses frères et sœurs que ben on va financer un projet très cher pour lui et que on va il y aura peut-être pas une égalité parfaite entre tous les frères et sœurs, mais on sent qu'on doit le soutenir, ou justement il y a quelque chose de mon enfant qui m'échappe et ça me fait très peur. Là je pense particulièrement à des familles où c'est des appels vers la vocation religieuse ou militaire, le sentiment qu'ils ont, voilà, s'ils accordent à l'enfant du crédit à sa vocation, ils ont peur de perdre l'enfant. Mais c'est aussi le cas quand un enfant veut partir au bout du monde pour étudier les baleines, je sais pas où, hein. Je crois qu'il y a un travail à faire sur l'angoisse de perte parfois de la part des familles, et puis à contrario des vocations qui réalisent le rêve refoulé d'un parent aussi, hein.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire, ça, Marie-Estelle Dupont? C'est intéressant, ça.
Oh bah l'enfant qu'on destine à la banque et qui a un talent en peinture et qui veut être peintre et qui va de manière inconsciente trouver un soutien à une alliance avec sa mère qui ne s'est jamais autorisée à peindre mais qui rêvait de devenir peintre et qui quelque part a transmis ce rêve à son enfant. Alors est-ce que c'est aliénant ou est-ce que c'est un épanouissement pour l'enfant? C'est l'avenir qui le dira. Mais finalement là, la famille va se mettre du côté de l'inconscient de l'enfant qui réalise un rêve qui n'a pas été justement une injonction, une projection, mais qui est finalement peut-être un talent qui était à l'état de germe dans la famille et que l'enfant on retrouve d'ailleurs parfois chez nos enfants des talents de nos grands-parents. Et on se dit, c'est drôle, ça a sauté une génération. Mon enfant, alors que je suis nulle pour faire ça, mon enfant est très doué et ça me rappelle tel grand-parent. Et parfois, l'enfant va être appelé vers cette voie parce qu'il sent quelque chose d'un héritage intérieur qui grandit en lui. Donc en fait, la famille peut être dans deux polarités très très opposées face à la vocation. La résistance totale, non mais tu sors du chemin qui est convenu, qui est bien, qui est lisse, tu vas te planter. Moi, quand j'ai dit que je voulais être psychologue alors qu'on me voyait faire de la banque, ça a quand même été très compliqué de l'expliquer à mon père, qui après coup était content pour moi, mais sur le moment, il avait que des craintes. C'est pas un métier dont on vit, etc., etc. Il y a des destins heureux, on finit avec Romain Desarmes.